Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » En s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons la figure de Melchisédek qui ressort dans les lectures d'aujourd'hui. C'est tout la première en fait. Melchisédek est une figure intéressante dans le livre de la Genèse. Cette figure est reprise dans l'Épître aux Hébreux, la section que nous venons de lire et les autres chapitres qui vont venir plus tard. En fait, de Melchisédek, il est dit qu'il était prêtre. C'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham à un moment donné. Abraham venait de conquérir de l'espace, venait de gagner la guerre. Et Melchisédek, c'est lui qui a offert au Père un sacrifice, une offrande en utilisant du pain et du vin. Ça, c'est une première chose. Ensuite de Melchisédek, on aime à dire qu'il était prêtre, mais on ne sait pas d'où il a eu sa prêtrise, parce que du temps d'Abraham, du temps de l'Ancien Testament, ne pouvait être appelé prêtre, ne pouvait devenir prêtre que les membres de la tribu de Lévi. De Melchisédek, on ne sait d'où il est venu, on ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas son père, on ne connaissait pas sa mère. Alors comment ça se fait qu'on l'appelle prêtre? Alors c'est-à-dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous dire, si les prêtres, c'est parce que Dieu l'a institué ainsi. L'origine de son sacerdoce, de sa prêtrise, vient de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est appelé prêtre. Alors de dire, cette prêtrise-là, ce sacerdoce de Melchisédek, dépasse celui de Lévi, de l'Ancien Testament. Parce que celui de Lévi, c'était comme un sacerdoce, une prêtrise qui était rattachée au sang, qui était rattachée à une tribu, qui était rattachée à l'humanité. Mais le sacerdoce de Melchisédek est rattaché à Dieu lui-même. Alors, en affirmant cela, il arrive à dire que finalement, si Jésus est appelé prêtre, c'est de l'ordre de Melchisédek. C'est à la manière de Melchisédek. Pourquoi ? Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas être appelé prêtre. Mais pourquoi alors l'Épître l'appelle prêtre? Eh bien parce que son sacerdoce tire son origine directement de Dieu. Voilà comment l'auteur explique que Jésus est prêtre à la manière de Melchisédek. Et même le sacerdoce du Nouveau Testament, les prêtres qui vont suivre dans le Nouveau Testament encore aujourd'hui, tirent leur sacerdoce de Jésus évidemment, parce que dans l'affirmation ecclésiale, nous n'avons qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Les prêtres comme nous, le ministère sacerdotal que nous exerçons, on peut l'appeler le sacrement comme le signe palpable du sacerdoce du seul prêtre Jésus. C'est comme ça qu'on peut comprendre et affilier le sacerdoce ministériel au sacerdoce de Jésus pour dire que finalement, l'unique prêtre eh bien, s'exprime à travers le sacerdoce ministériel qu'on qu'ont les prêtres aujourd'hui. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que nous nous tournons vers Jésus comme prêtre. Et la signification du prêtre, sacerdoce, c'est au fait celui qui fait le pont entre l'humanité et Dieu. Le sacerdoce de Jésus, c'est justement lui-là, à partir de lui que nous atteignons Dieu. C'est à partir de lui que nous recevons les bénédictions divines, c'est à partir de lui que nous recevons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est prêtre, voilà comment il fait le pont. Il nous relie à Dieu, son Père. Mais maintenant, quand nous réfléchissons sur l'œcuménisme, il y a toujours ce dialogue qui continue entre l'Église catholique avec les autres chrétiens. Mettons le dialogue qui existe entre les chrétiens, entre les églises chrétiennes de différentes dénominations. Il y a toujours ce problème-là qui vient. Comment redéfinir, comment comprendre le sacerdoce, comment comprendre la prêtrise, comment saisir tout cela. Alors, quand on réfléchit sur, à partir des Écritures, eh bien, on essaie de revenir, nous tous, sur le sacerdoce unique, qui est le sacerdoce de Jésus. Et maintenant, voir comment l'impliquer, comment le vivre dans l'Église chrétienne. Alors, comme c'est la semaine de l'unité, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons aujourd'hui que le Seigneur donne la grâce à toutes les églises chrétiennes, à tous les responsables, à tous les théologiens des différentes dénominations chrétiennes, la lumière, l'éclairage nécessaire pour découvrir la volonté de Dieu, savoir ce que Dieu veut révéler, ce que Dieu veut que les églises, les chrétiennes comprennent comme sacerdoce, comment le vivre aujourd'hui. Parce que finalement, l'unité vient de Dieu. Nous faisons des efforts, c'est vrai, et Dieu veut que nous fassions des efforts, que nous y travaillons. Mais c'est lui qui va venir mettre le point, couronner les efforts, c'est Dieu qui va rassembler. Alors, il faudrait que nous soyons toujours à la disposition de cette grâce divine pour vivre l'unité des chrétiens. Regardez ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est sabbat et les personnes sont en prière. Oh, il ne faut rien faire au jour du sabbat, c'est la réglementation, c'est la loi. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas marcher. Alors même, il y en a qui sont mécontents parce que Jésus guérit le jour du sabbat. C'est voir jusqu'où peut aller la loi, le conformisme, le légalisme, jusqu'où ça peut amener. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que dans nos communautés chrétiennes, dans les différentes dénominations chrétiennes, que nous soyons paralysés par le légalisme, le conformisme. Comme on voit dans les pharisiens, c'est sabbat, on prie, personne ne bouge, tout le monde dans l'église. Je peux toujours me rappeler de cette histoire que nous racontait un de nos professeurs, je crois que je l'avais déjà raconté ici, qui disait, écoutez, à supposer qu'un dimanche matin, tu te lèves, tu vas à l'église, et puis sur ton chemin, voici qu'un cycliste vient de tomber terriblement, il saigne devant toi. Vas-tu le laisser là pour aller à l'église? Il dit, mais non, tu t'arrêtes, tu soignes le cycliste, tu l'amènes à l'hôpital, c'est possible. Ta messe, c'est ça. Alors, maintenant, le légalisme, c'est non, non, je viendrai après, je vais d'abord à l'église. J'ai fait ma messe, ensuite je vais voir celui qui est tombé. Voyez-vous? Alors, c'est que quand nous réfléchissons, nous prions, c'est qu'on sorte du légalisme, du conformisme. Regardez comment le Seigneur agit. Il faut aimer, il faut arriver à guérir, il faut aller à l'essentiel. Alors, même dans le dialogue des chrétiens, il faudrait qu'on aille à l'essentiel, l'essentiel de notre foi, l'essentiel de l'espérance, l'essentiel de la Bible, l'essentiel de la parole de Dieu, l'essentiel du message de Jésus. C'est ça qu'il faut essayer de creuser et d'atteindre de plus en plus. Alors on va continuer notre célébration, nous rappelant que nous sommes dans la semaine de l'unité. Vous allez voir que dans votre prière, à la fin de chaque journée, il y a des textes qu'on vous propose, qu'on nous propose pour la prière, même pour la méditation de la journée. Vous pouvez les considérer pour vos journées et puis continuer à prier durant toute la journée pour l'unité de chrétiens. Il faudrait se rappeler que ce mouvement de prière pour l'unité de chrétiens a commencé longtemps, en 1906, c'est alors que ça a commencé. Et ça atteint beaucoup l'Église catholique dans les années 1925. Alors, ça continue. Quand ça commençait, en fait, on faisait 9 jours, c'était la neuvaine. On faisait la neuvaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cela, ça faisait avant la Pentecôte. Mais beaucoup plus tard, surtout en 1925, on l'a déplacé. On l'a mis au mois de janvier du 18 au 25 janvier. Et c'est ce qu'on fait couramment. Et à Rome, il y a des rencontres de prière le 25 ou durant la semaine. Le pape célèbre toujours une liturgie de la parole avec des dénominations de différentes dénominations chrétiennes. Ensemble, ils font la liturgie de la parole. Alors, en gardant tout cela dans notre esprit, demandons au Seigneur, comme je l'ai dit au début, de faire de nous des artisans de la paix, de faire de nous des personnes dévouées à la prière pour l'unité des chrétiens, de faire de nous des personnes qui faisons des efforts là où nous sommes pour que tout le monde soit un. Au nom de Jésus. Amen.